C'est
une radio, une appli connectée à notre région. Vous écoutez ici, il est 1h.
Ici, la nuit, les oreilles sont grandes ouvertes sur nos meilleurs podcasts.
Nous sommes dans le Pével et du haut de son échelle, lui, le précurseur Émile, bénéficie du plus beau panorama qui soit.
Je m'appelle Émile Vah, je suis meunier à Mons en Pével.
Et Émile, ça date pas d'hier cette histoire de meunerie.
Ça dure depuis 1933, j'étais déjà meunier à ma naissance, je pense, c'est génétique.
Alors c'est vrai que ça fait plus de 1000 ans qu'on fait de la farine ici.
Je suis la 4e génération, suivie de la 5e et la 6e maintenant, c'est-à-dire 130 ans de présence meunière sur un site millénaire, initié par l'abbaye Saint-Vat d'Arras au 11e siècle.
Vous êtes comme moi pour la radio en fait.
Effectivement. La meunerie est un métier passion.
Un bon meunier, Émile.
Alors, un bon meunier, c'est celui qui a la sensibilité dans les tripes.
Meunier, tu dors.
Et oh, cette comptine est diffamante et nous sommes à deux doigts de porter plainte contre l'auteur. Pourquoi, Émile ?
On est meunier 24 heures sur 24 et moi je ne connais pas les horaires. Moi je suis meunier minute après minute. Quoi.
Voilà, et c'est pas un gamin qui vous le dit.
J'ai maintenant 75 ans de métier dans mon entreprise depuis ma plus tendre enfance.
Quels sont les sens qu'il faut avoir en éveil quand on est meunier ?
Ah, les cinq. Ah oui, absolument. On a le pied à coulisse au bout des doigts. On a l'oreille tendue. Le bruit, on connaît pas. On connaît les sons. Hein. C'est une musique, la meunerie. On a aussi le nez, les odeurs caressantes des céréales. Et puis le goût, bien entendu. Dès qu'on franchit le seuil de sa maison pour se rendre sur le lieu des activités, tout est en émoi. Et on a la chair de poule constamment.
On travaille avec des machines aujourd'hui.
C'est vrai. Ici, ces derniers mois, nous avons installé des machines qui fonctionnent par intelligence artificielle, qui permettent d'éliminer l'invisible indésirable dans la préparation des céréales avant mouture. On est dans la sécurité alimentaire à fond.
Mais l'homme est indispensable, toujours là.
L'homme intervient. Les réglages sont évidemment indispensables et subtils. La direction des vents, des pluies, l'hygrométrie, les températures, tout ça influe cette séparation des éléments constitutifs des produits du sol.
Eh bien, merci Émile.
Moi, c'est ici que j'y suis né. Ma maman m'a mis au monde au moulin. Je baigne dans la Pével.
Écoutez ici, la nuit, et profitez du meilleur de nos podcasts. Un podcast ici Gascogne.
Formidable histoire. À la Bastide d'Armagnac se trouve Notre-Dame des cyclistes, une chapelle, comme son nom l'indique, consacrée au cyclisme. Notre guide, Claude Madeau, président des Amis de Notre-Dame des cyclistes.
L'histoire de Notre-Dame des cyclistes, c'est grâce à un curé qui habitait à Créon d'Armagnac, un petit village à une dizaine de kilomètres de la Bastide d'Armagnac. Et c'était un fou de vélo. Il a été, durant son sacerdoce, il a été 18 fois à Saint-Jacques-de-Compostelle. Il a été 12 fois à Rome, à vélo. Il a été 4 fois à Fatima, à vélo. Et alors, c'est en se promenant sur les bords du lac de Côme, en Italie, qu'il s'est aperçu qu'il y avait une chapelle qui était dédiée aux cyclistes italiens depuis 1948. Il s'est aperçu qu'il y avait des maillots accrochés au mur et des vélos suspendus au plafond. Il est allé voir le maire de la Bastide d'Armagnac pour lui raconter qu'il avait vu ça en Italie et qu'il voudrait la même chose en France. Le maire lui a dit, attendez, cette chapelle qui est abandonnée depuis un certain nombre d'années, nous allons la raser. De là, puisque le maire ne veut pas entendre, je vais voir le préfet. Il est allé voir le préfet des Landes, il a raconté l'histoire au préfet des Landes, qu'il avait vu ça en Italie, etc., et qu'il voulait faire ça en France. Il a dit, mais je suis tout à fait d'accord, sachez que la préfecture ne s'y opposera pas. Alors il a réfléchi quelques jours de plus dans son presbytère, et puis il a dit, bon, maintenant, pour faire ça, il me faut l'accord de l'évêque. Et l'évêque ne lui a rien dit, et lorsqu'il est parti, il a dit, oh là, j'ai dû faire un impair quelque part pour ne pas qu'il me réponde. Puis il a réfléchi quelques jours de plus, il a dit, là, il prend son vélo, il part à Paris voir le grand directeur du Tour de France qui était Jacques Gaudet à l'époque. Et Jacques Gaudet lui dit, mais c'est une très très bonne idée. Si vous voulez faire la même chose en France, bravo. en rentrant de Paris à la Bastide d'Armagnac, il y a quand même plus de 800 km. Il dit, il me faut l'accord de l'évêque impérativement. Alors l'évêque lui dit, mais écoutez, mais moi je ne peux pas vous donner mon accord. Il dit comme ça. Le seul qui puisse vous donner l'accord, c'est le pape. Qu'à cela ne tienne, il dit. Il est parti le lendemain voir le pape à Rome. Il est revenu 18 jours plus tard. Et le premier qui est allé voir, bien sûr, ça a été le maire de la Bastide d'Armagnac. Et toi, il dit, je ne te demande pas ce que tu en penses, je te demande surtout de me restaurer cette chapelle le plus rapidement possible. Parce que moi, je veux l'inaugurer très rapidement. Et c'est ce qu'il a fait.
Est-ce que dans notre chapelle, aujourd'hui, dans les Landes, Notre-Dame des Cyclistes, il y a, à l'image de celle d'Italie, des maillots et des vélos au plafond ?
Absolument. Il y a 831 maillots qui sont accrochés au mur. Et j'en ai 350 dans des cartons qui attendent que je trouve de la place, parce que j'ai plus de place.
Notre-Dame des Cyclistes est ouverte à la libre visite de mars à octobre et toute l'année pour les groupes. Tous les renseignements auprès de la mairie de la Bastide de d'Armagnac. Recommandé par Ici Gascogne.
Ici, la nuit, on prend le temps de rattraper le temps. Écoutez nos replays et nos podcasts. Un podcast Ici Béarn Bigorre.
Ici Béarn Bigorre.
Ici Béarn Bigorre.
Adichas. Cas de cop qui s'escape Bertat.
Les mots doc.
Le smooth doc.
Adi ou Ninou.
Adi Oana.
Qui va me parler des expressions.
Alors déjà, qui va te poser une question.
Oh.
Je vais te poser une question. Et connais-je ce Tracharman? Est-ce que tu connais des menteurs?
Oh, qui connais-je Tress ou quoi t'es Tracharman à l'entour des joues?
Et ça, bah, Anna, si tout le Tracharman disait ben, la Bertat, il y a Berreher d'Orp sur Terre. Si tous les menteurs disaient la vérité, il y aurait beaucoup d'aveugles sur Terre. Permou, qui va vous parler du expression qu'il y a cas de cop qui s'escape Bertat, qui est au catch away. Si on la traduisait littéralement en français, ça voudrait dire il perd un œil chaque fois qu'une vérité lui échappe. Qui pouvait me utiliser à cette expression quand monde ne tracharmandei en souben et du coup qu'il lui disait ma côte à rintadis d'aresta. On peut utiliser cette expression quand des personnes mentent beaucoup pour un peu bah, les effrayer ou leur montrer les expressions qu'il y a sur ça. Du coup qu'il disait en occitan, on dit en occitan tracharman.
Quelqu'un qui fait des mensonges.
Oui, un menteur.
Merci Sarah, Ninou.
Merci Sana.
Les mots doc.
Le smooth doc.
À retrouver en podcast sur l'appli Ici. Ici.
Actu locale, musique et bonne humeur.
D'Allemagne, où j'écoute la pluie en vacances. D'Allemagne, où j'entends le rock en silence. D'Allemagne, où j'ai des souvenirs d'en face, où j'ai des souvenirs d'enfance. Leninplatz et Anatole France. D'Allemagne, l'histoire passée est une injure. D'Allemagne, l'avenir est une aventure. Je connais l'essence interdite. Je sais où dorment les fusils. Je sais où s'arrête l'indulgence. Oh, puis d'Arzène, Lily Marlène, reparlez-moi des roses de Göttingen qui m'accompagnent dans notre Allemagne. À l'heure où Colombet retour s'éloigne, de quel côté du mur la frontière vous. Je plane sur des musiques d'Apollinaire. D'Allemagne, le romantisme est plus violent. Les violons jouent toujours plus lent. Des valses viennoises ordinaires. Lily Marlène, reparlez-moi.
aber eine kleine Wildblume. Eine Flamme, die zwischen den Wolken blüht. Dalman, j'ai une petite fleur dans le cœur, qui est comme l'idée du bonheur, qui va grandir comme un arbre.
Le temps. Écoutez nos rediffusions et nos podcasts. Un podcast ici Besançon.
Bonjour Louise, bonjour à tous.
Le foot féminin a décidément conquis la Suisse.
À ça, depuis qu'ils ont accueilli l'Euro cet été, on a l'impression que c'est eux qui ont inventé le foot féminin. Hein. En tout cas, ils se sont sérieusement penchés sur ce phénomène étrange, à savoir des humains de sexe non masculin qui courent après une baballe en essayant de marquer des buts. Pour eux, ça semble tellement extraordinaire qu'ils en ont profité pour mener une expérience. Faire réaliser aux hommes la performance des footballeuses. Mmh. On dit comme ça, je sais, ça peut paraître étrange, oui. Vu que le foot masculin existe depuis bien plus longtemps, et que les mâles sont quand même des pionniers dans ce sport.
En fait, il est question d'égalité homme-femme dans cette expérience.
Eh ben oui. Vous aurez remarqué que ces dames jouent sur le même terrain que les hommes. Eh ben ça, ça épate les Suisses. Faire jouer les filles sur des terrains aux mêmes dimensions que les garçons, sans tenir compte des différences anthropométriques et physiologiques des deux sexes, non mais ça va ou bien ? Alors, ils ont sorti leurs scientifiques de leurs vacances pour nous dire que les femmes sont généralement plus petites et ont moins de masse musculaire. Donc, sur un terrain aux mêmes dimensions que les hommes, les femmes doivent courir davantage et fournir plus d'efforts.
Ils ont donc voulu rétablir l'égalité ou au moins la vérité, quoi.
Eh oui. Alors, leur idée, c'est faire jouer les hommes sur un terrain 20% plus grand et avec un ballon plus lourd. C'est un ballon l'équivalent du poids d'un ballon de basket et aussi des buts plus grands. Voilà comment les Suisses veulent rétablir l'égalité autour du ballon rond. Alors, dans ces conditions, les hommes ont fini épuisés avec l'impression de jouer au ralenti. Tout ça a donc permis aux Suisses de montrer que l'égalité des sexes, ok, mais question ballon, c'est pas possible. Ils viennent donc peut-être, malgré eux, de donner raison à ceux qui voient le foot féminin comme une version light du foot tout court.
Des drôles d'expériences hein, quand même qui sont menées en Suisse, mais peut-être pour la bonne cause ensuite. Merci David, à demain.
À demain.
Ici, la nuit, les oreilles sont grandes ouvertes sur nos meilleurs podcasts. Un podcast ici, Pays d'Auvergne.
Bonjour, vous ferez attention, il y a une peluche qui vous suit.
Oui, vous avez vu, elle est magnifique ma peluche. Hein.
Mais elle est vivante surtout.
Oui, oui, oui.
Elle bouge.
elle bouge et elle fait plein de câlins, c'est super.
Ça doit être bien, des câlins de chocho.
C'est ça.
Et un chocho?
Oui, c'est ça, ouais, exact.
Comment elle s'appelle?
Boubouille.
Oh là là, en plus il s'appelle Boubouille.
Ouais, ma boubouillette est trop mignonne. Elle est trop
c'est une fille?
Non, c'est un garçon, mais j'ai le droit de dire ce que je veux. C'est comme ça.
Ouais. Ça pourrait le perturber quand même dans son...
Non, parce qu'il est bien dans ses pompes. Il est bien dans ses pompes et il sait que il est ce qu'il veut. Voilà, et c'est ce qui compte dans la vie, d'être ce qu'on veut.
Moi, je pense souvent, quand je vois des chochos comme ça ou des chiens qui ont vraiment beaucoup de poils,
ouais.
Je me dis souvent, l'été, par contre, ils doivent un petit peu souffrir.
Ouais, c'est vrai qu'on a acheté une petite clim juste pour lui, pour pouvoir le mettre au frais, ouais, parce qu'on habite en centre-ville. Et c'est vrai qu'il a eu très, très chaud, quoi. Après, voilà, on essaye de le sortir au moment de fraîcheur. Et cet été, ça s'est bien canalisé. J'espère que l'été prochain, s'il ne fera pas trop, trop chaud. Sinon, on l'emmènera au pôle Nord et puis c'est tout. Je ne sais pas comment.
C'est l'occasion d'un voyage.
Exactement. Je ne sais pas comment peut faire voyager un chouchou jusqu'au pôle Nord, mais ça doit se trouver.
Bon, oui, tout est possible. Ça se réfléchit, ça s'organise.
Exactement, ça s'organise.
Mais alors, je note hein, qu'au niveau de...
Oui. Non, ne notez pas, les gens n'ont pas besoin de le savoir. Non, ne notons pas, un chien blanc n'est pas toujours blanc partout. On essaye de le laver.
Surtout quand il a des poils longs.
Exactement, tout
s'accroche. Figurez-vous que j'ai le cas avec mon chat.
C'est vrai ? Ouais.
Il y a bien par moments où le cucu n'est pas très très propre.
Et pas nénette. C'est ça, exactement.
Mais sur un chien blanc, ça se voit encore un peu plus.
Bah, c'est ça, on n'a pas trouvé la crotte magique blanche qui ne tâchera pas l'arrière-train. C'est bien dommage.
Alors, d'où l'histoire du pôle Nord, parce que justement là, c'est tant jamais.
Eh oui, exactement. Tout est lié, tout fait sens, hein, c'est vrai.
Merci pour cette rencontre.
Je vous en prie, merci à vous. Très belle journée.
Écoutez ici, la nuit, et profitez du meilleur de nos podcasts. Un podcast ici Poitou.
Bah moi c'est ma sœur parce qu'en fait quand elle fait des bêtises, bah mes parents ils les fâchent et en fait elles s'en fichent complètement.
Moi c'est mon père parce qu'il est blagueur et il fait des blagues tout le temps et des fois il est un peu énervant.
Bah moi j'ai trois personnes, il y a mon tonton, mon papa et mon papy parce que déjà mon papy il est très drôle parce qu'il me porte comme un sac à patates. Mon tonton, lui, quand il me prend, il me jette dans la piscine alors que j'ai encore mes habits super lavés. Et mon père, c'est le plus rigolo parce que moi, je l'adore et voilà.
C'est ma sœur parce que quand je lui dis un truc, elle le répète, mais en plus marrant.
C'est moi-même parce que je m'aime et je fais des blagues super marrantes. Par exemple, qu'est-ce qui est jaune et qui attend ? Jonathan !
Ici.
All that dust, I'm on in my tower. You were just haunting your powers. Now I can see.
fade off, oh Ophelia.
Ici, la nuit, on prend le temps de rattraper le temps. Écoutez nos replays et nos podcasts. Un podcast ici Isère.
Dauphinoise, Dauphinois, bien le bonjour. Aujourd'hui, un village dauphinois extraordinaire. D'abord parce que son nom, contrairement à la plupart des communes de l'Isère, qui se termine en Ye, en On, en Ain, en An, se termine, lui, par F. C'est rare, F. Alors, entre Bourgoin et Saint-Savin, que nous avons visité récemment, Saint-Chef. Ah, Saint-Chef, cette fabuleuse cité abbatiale est célèbre pour ses édifices historiques et pour être le berceau de personnages historiques comme Louis Seignier, de la Comédie Française, Frédéric Dard, le fameux créateur de San Antonio, et la famille Buyat, qui est la famille de ma femme, voilà. Alors, moins connu, d'accord, que les deux autres, mais je ne vois pas pourquoi je n'en parlerai pas. D'accord, les Buyat n'ont pas écrit de livres, joué à la Comédie Française ou construit des abbayes, mais les agriculteurs dauphinois méritent aussi qu'on les cite. Ah non, bon, surtout quand ils font partie de la famille. Salut les Buyat, salut, et salut aux Saint-Chefois et Saint-Chefoises. Ah non, c'est dur à dire, Saint-Chefois et Saint-Chefoises, c'est vraiment dur à dire. Hein. Bon, je laisserai à d'autres la mission de vous parler de l'abbaye, des églises et autres monuments. Moi, je vais vous parler de ce que je connais le mieux, la taverne rustique. À chacun son boulot. La fameuse taverne rustique de Saint-Chef, dans laquelle le Frédéric Dard passait de longs moments. Tu m'étonnes, le Frédéric était plus porté sur la bibine que sur les bondieuseries. Ça tombe bien, pareil, tout pareil. On aurait pu s'y rencontrer. Ah, j'aurais bien aimé rencontrer le Frédéric Dard, mais bon, il est parti avant que j'arrive. Bref. Ah, la collection de nains de jardin de la taverne rustique. Ça aussi, c'est de l'art. Pas de l'art roman, d'accord, mais du lard tout court. Je vous conseille le menu gastronomique à 26 euros. Ah, vous avez bien entendu, c'est marqué, entrée, plat, fromage, dessert, 26 euros. Ah ouais, entouré de nains de toutes les tailles. Eh oui, il y a des grands nains de jardin et des petits nains de jardin qui nous sourient en nous regardant manger sous les arbres du jardin. Vous suivez, c'est merveilleux. C'est aussi ça, Saint-Chef. C'est chez la Monique. Chez la Monique, on s'est accueillis. Ouais, une autre gueule, la Monique de Saint-Chef. Ben oui, la taverne rustique. Je vous conseille un dessert. Le dessert, c'est le vacherin glacé fait maison. Alors, j'insiste, hein. Fait maison. La portion, je vous le dis, fait 20 cm de hauteur et 5 cm d'épaisseur, à peu près. Voilà, comme ça. Hein. Voilà, du vacherin dauphinois. Pas de la petite portion fabriquée en grande surface et en petite épaisseur. Ouais, une autre gueule encore. Comme disait mon grand-père, ou celui de ma femme, ou Frédéric Dard, lui-même peut-être, je sais pas. La vie est courte, commençons par le dessert. Allez, vive Saint-Chef, vive le Dauphiné, puis tous ensemble, je vous entends cette fois-ci. Hein. On n'est pas des... Car même, il y en a qui l'a pas dit au fond.
Ici, la nuit, on prend le temps de rattraper le temps. Écoutez nos rediffusions et nos podcasts. Un podcast ici Mayenne.
Je vous emmène à Laval, dans les locaux de la Ligue contre le cancer, où on découvre à l'intérieur une salle dédiée au sport adapté. Toutes les semaines, il y a des sessions de gym thérapeutique. J'ai assisté il y a quelques jours à une séance. Trois femmes atteintes d'un cancer y participaient. Elles souffrent chacune de pathologies différentes. Guidées par Marion, la coach, elles ont dû faire, parmi les exercices, des pompes en prenant appui sur une chaise.
18, 19, dernier. Allez.
Comment vous faites, Edith? Vous n'êtes presque pas fatiguée. Comment c'est possible, ça?
On écoute bien les conseils de Marion par rapport à la respiration. Quelle que soit notre pathologie, il faut toujours bien écouter pour ne pas faire de travers et ne pas se faire mal.
Bon, et là, Marion, elle est en train de se dire, il faut passer à l'exercice suivant, et je crois qu'elle a envie que je participe. Alors, je fais l'exercice avec vous et avec vos amis,
D'habitude, Edith. On a un homme avec nous, mais aujourd'hui, il nous a fait faux bond.
Je fais donc office de remplaçant et j'écoute les consignes de Marion pour le nouvel exercice.
On fait la chaise sans chaise, donc c'est la chaise contre le mur, le dos bien plaqué, on immerse aussi les lombaires contre le mur, on a les pieds parallèles, les genoux à 90 degrés pour l'angle mollet ischio-jambier et on se passe le ballon les unes aux autres, comme ça, pendant 30 secondes.
Donc c'est un ballon de baudruche. Bah allez, c'est parti, on fait la chaise avec tout le monde, avec vous Marion, avec Edith, avec Annie, avec Isabelle également.
C'est parti.
Hop, le ballon. Je suis déjà pas bien alors que ça vient de commencer.
Est-ce que ça va trembler?
Il faut tenir.
Bravo.
Voilà, j'ai quand même tenu grâce aux encouragements d'Edith. Bravo. Elle vient à ses ateliers toutes les semaines, des séances qui sont vraiment très importantes pour elle.
Bien, d'abord, ça nous sort de notre zone de confort physiquement, puisqu'on se croit incapable avec notre pathologie de faire quoi que ce soit, alors qu'on s'aperçoit qu'on est capable. Dans la mesure où on est bien encadré, alors que Marion est là pour nous guider et nous ralentir, d'être tout ensemble en même temps, ça nous apporte ça physiquement, et puis ça nous fait rencontrer des personnes, et ça, quand on a un cancer, quel qu'il soit, on est très isolé, malgré tous les soins qu'on peut avoir, on est très isolé chez nous, et d'avoir des soins de support comme ceux qu'on reçoit à la Ligue, c'est super important pour le moral. Et le moral fait partie de la guérison pour celles qui auront de la chance de guérir, et puis de l'état général pour ceux qui doivent vivre avec, comme moi, un cancer chronique.
Vous luttez contre quelle maladie alors précisément? On peut le savoir?
Oui, moi j'ai un cancer des ovaires en phase 4, donc qui a métastasé sur le péritoine et les poumons, donc qui n'est plus guérissable.
Et alors, ce qui m'a frappé, c'est le sourire d'Edith et des autres participantes pendant cette séance. Marion, la coach, n'y est pas pour rien. Avec elle, les séances, ça commence toujours d'ailleurs par une chorégraphie.
J'essaye à chaque fois de mêler un petit peu d'exercices cardiovasculaires et d'exercices de renforcement. Donc, c'est assez varié, sous forme de jeu toujours, sous forme de relais. On peut aller dehors, on peut aller dedans. C'est assez ludique. On fait un petit peu d'équilibre à la fin. Elles aiment pas trop, mais finalement, on rigole plus qu'autre chose.
Qu'est-ce que ça vous apporte, vous, personnellement, en tant que coach, de venir ici chaque semaine dans les locaux de la Ligue contre le cancer à Laval?
C'est incroyable, c'est un rapport humain que je n'aurais jamais soupçonné et elle m'apporte beaucoup plus que ce qu'elle ne le pense. C'est indescriptible, j'en ai pas les mots.
Ici, la nuit, les oreilles sont grandes ouvertes sur nos meilleurs podcasts. Un podcast ici mène.
J'ai raconté un petit peu ma vie au patron du... C'est un ami, mais je connais pas son nom.
Vous étiez en train de bavarder avec le patron du bar du village.
C'est ça.
Donc vous ne connaissez pas le nom?
Non, je connais pas le nom. J'ai honte, mais bon, c'est pas grave.
Comment ça se fait que vous connaissez pas son nom, mais que c'est un ami quand même?
Ouais, je sais pas, on aime bien parler ensemble, mais c'est vrai que son nom, je me rappelle pas.
Bon, disons que vous êtes une fidèle cliente.
Voilà, c'est ça.
Mais alors, vous habitez ici à Parnay-sur-Roc?
Oui, monsieur.
Depuis combien de temps?
Depuis 7 ans.
Alors, qu'est-ce qui vous a fait débarquer ici à Parnay-sur-Roc?
La maison, un achat d'une maison. On est venu ici.
Parce qu'avant, vous étiez où?
Oh, avant, j'étais en Lorraine.
Ah oui, rien à voir.
Rien à voir, je travaillais au Luxembourg et j'habitais en Lorraine. Et puis, on est venu ici en Mayenne s'installer pour le travail et pour faire une nouvelle vie à la campagne.
Et donc, vous avez grandi en Lorraine?
Non, j'ai grandi au Luxembourg.
Donc, vous êtes luxembourgeoise, en fait?
Non, je suis italienne. Je suis italienne, c'est compliqué.
Moi, je comprends plus rien. Donc, vous êtes italienne, vous habitez en Mayenne, mais vous avez vécu au Luxembourg.
Au Luxembourg, c'est ça, c'est bien ça. Ouais, c'est compliqué.
Et c'est pour ça que vous avez le sourire, vous rigolez, vous avez la Dolce Vita, comme vous dites.
Voilà, c'est ça. Il faut toujours garder le sourire. Même dans les mauvais moments, il faut garder le sourire. Il faut pas perdre l'espoir, en fait.
Vous retournez en Italie, alors, de temps en temps?
Ah ben, en vacances, oui. Pour aller chercher le soleil, parce que... Pour faire bronzette un peu, parce qu'ici, il n'y a pas beaucoup de soleil.
Vous appelez comment?
Teresa.
Teresa, belle journée Teresa.
Merci beaucoup à vous aussi.
Ici,
actu locale, musique et bonne humeur.
Il mélange au fond de sa tasse du miel. Il regarde par le vasistas. Le ciel. À chaque fois que passe un avion, il se dit que c'est peut-être elle qui passe au-dessus de sa maison. On lui a dit qu'elle était au ciel. Il rêve couché sur un parquet dans les bras de sa mère, dessiné à la craie. Tous les soirs en secret, ce dessin. Trait pour trait, à partir d'un portrait. Il rêve couché sur un parquet, dans les bras de sa mère, dessiné à la craie. Tous les soirs en secret, ce dessin. sa maîtresse. Pourquoi pas rendre tant pas d'aise. Des câlins, il en voudrait tellement. Ne serait-ce qu'un parent. Il rêve couché sur un parquet dans les bras de sa mère, dessiné à la craie. Tous les soirs en secret, ce dessin il le fait. À partir d'un portrait, il rêve couché sur un parquet dans les bras de sa mère, dessiné à la craie. Tous les soirs en secret, ce dessin il le fait. Trait pour trait, à partir d'un portrait. Ce dessin, il le fait trait pour trait, à partir d'un portrait. Trait pour trait, à partir d'un portrait.
Écoutez ici, la nuit, et profitez du meilleur de nos podcasts. Un podcast ici Cotentin.
Moi, j'ai pas beaucoup de copains qui ont des téléphones, par exemple, on discute, on joue.
Bah, déjà, quand on a le téléphone, on passe beaucoup moins de temps avec nos parents. Du coup, bah, ils sont un peu tristes parce que, bah, ils sont toujours tout seuls.
Bah, moi, par exemple, là, actuellement, je suis plus de téléphone. Bah, parce que justement, je réagis pas très bien quand on doit prendre mon téléphone, quand je passe le soir ou quoi. Je réagis très mal parce que les téléphones, ça. Je suis matrixée, quoi. Je suis. C'est comme une drogue, le téléphone, quoi. Tu peux pas t'en empêcher de l'utiliser ou quoi. Après, c'est pour mon bien, quoi. Donc, quand je serai dépunie, je réagirai pas pareil. J'aurais compris que c'est pas très bien de faire ça aux parents ou de répondre à des trucs comme ça.
Moi, je m'en fiche un peu qu'on me le confixe. C'est juste que de voir que les autres, eux, ils s'amusent avec leur téléphone.
Kevin, c'est quoi ce 4 en maths, là, ton téléphone?
Non, j'en ai besoin, s'il te plaît.
Ton téléphone.
S'il te plaît.
Moi, si mes parents disent je te le confixe, moi, je serais content et pas content, parce que déjà s'ils disent je te le confisque, je serais un peu content parce que je jouerai dehors, je passerai plus de temps avec mes parents. Et s'ils ne le confisquent pas, bah je vais passer moins de temps avec mes parents et puis je vais pas jouer, je vais pas faire des câlins à mon lapin dehors.
Ben en fait, plus on évolue, plus il y a plus d'enfants sur les écrans, tout le temps et tout, au lieu de faire comme nos parents à l'époque, quoi, jouer dehors et tout.
C'était mieux avant, remonter le temps, premier cheveu blanc, j'ai pris un coup de vieux.
Ben en fait, à chaque fois, on essaye d'arrêter, mais on peut pas parce que, par exemple, on regarde une vidéo, elle est finie, on dit « allez, encore une autre », on l'a fini, on dit « allez, encore une autre », et en fait, on va pas le temps passer, donc... Et quand il nous le confixe, bah, on se met à s'énerver parce qu'on est trop habitué à l'avoir et c'est comme si on avait perdu une partie de nous, en fait.
Ici, la nuit, on prend le temps de rattraper le temps. Écoutez nos replays et nos podcasts. Un podcast ici Provence.
Moteur !
Alerte générale !
Hé, c'est quoi le texte ?
C'est ma France, hein. C'est moi qui l'ai dit tout le temps.
Action ! Je passais le plus clair de mon temps au cinéma Le Star.
Coupé ! Elle était bien celle-là.
Poupou, pidou.
Juillet 1989, Yves Robert pose sa caméra à Marseille pour réaliser son prochain film, La gloire de mon père.
Je suis né dans la ville d'Aubagne, sous le gare Laban, couronné de chèvres au temps des derniers chevriers.
Marcel Pagnol naît à Aubagne à la fin du 19e siècle. Sa mère, Augustine, est couturière, son père, Joseph, instituteur. La famille a grandi d'un petit frère et d'une petite sœur, part en vacances dans les collines, avec l'oncle Jules et la tante Rose. C'est l'occasion pour Marcel de découvrir la nature et l'amitié, avec Lily.
Mon père était instituteur public.